Il est 11h30 ici à Kinshasa, une heure de plus à Goma. La première question, s'il vous plaît, adressée à notre invité à l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés. On va commencer avec vous, monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut donner un micro à notre... Alors, bon. Est-ce qu'il y a une question sur les réfugiés sur la gauche? Le temps que le micro arrive et on revient à vous tout de suite. Oui, monsieur.
Moi, c'est Jean-Pierre Nkoutou. Je solliciterai l'indulgence du représentant régional, mais j'aimerais qu'il puisse revenir sur le chiffre de réfugiés d'autres pays qui sont ici en RDC et des réfugiés congolais qui sont ailleurs. Donc, je n'ai pas très bien retenu les chiffres que vous avez énoncés tout à l'heure.
Donc je disais que par rapport aux chiffres, il y a 772 000 réfugiés de République démocratique du Congo en Afrique, hein, principalement. Il y a encore d'autres statistiques dans le monde, il y en a beaucoup en France, en Europe, en Belgique, mais ça on n'a pas les noms, on n'a pas fait cette compilation. Et il y a ici en République démocratique du Congo 534 000 réfugiés, j'arrondis, hein, dont 219 000 Rwandais, 176 200 centrafricains, 92 700 soudanais du sud et 45 000 burundais. Alors, j'aime bien répéter parce qu'on parle toujours des camps de réfugiés, mais la plupart d'entre eux ne sont pas dans des camps. 398 000 de ces personnes vivent en milieu rural, hors site, avec et parmi les Congolais. Il n'y en a que 132 000 dans les sites et il y a quelque chose comme 3 800 personnes qui vivent dans les villes. Donc ici, à Kinshasa parmi nous.
Nous allons, monsieur Roger, c'est à vous.
Roger Marley Lukunga pour Elima News. Monsieur le représentant de HCR, j'aimerais savoir si le partage en commun des valeurs culturelles entre les réfugiés et les populations qu'ils retrouvent dans l'environnement, notamment la même langue et les accointances, sont favorables pour multiplier autant de camps de réfugiés dans ces endroits-là. Est-ce que ces éléments-là ne peuvent-ils pas être néfastes pour faciliter des infiltrations qui pourraient être nuisibles à la vie des populations de ces coins-là?
La question, comment que le partage des valeurs peut être nuisible?
On a parlé des infiltrés dans Beni. J'ai entendu qu'il y a des infiltrés islamistes dans Beni. Ils ont profité de l'installation de ces camps-là pour des infiltrations.
Bon, d'accord, je comprends mieux la question maintenant. Je n'ai pas entendu parler d'infiltrés dans les camps de réfugiés. À Beni, il n'y a pas de camps de réfugiés, il y a des camps de déplacés. Donc il faut bien faire... C'est pour ça que j'ai défini au début de mon intervention. On mélange souvent réfugiés et personnes déplacées. Les personnes déplacées sont des Congolais au Congo, déplacés en raison de conflits, mais à l'intérieur de leur pays. Les réfugiés sont des étrangers, des personnes qui ont fui les pays voisins pour venir se réfugier en République démocratique du Congo. J'entends souvent parler des camps de réfugiés au Nord Kivu. Il n'y a pas de camp de réfugiés au Nord Kivu. Alors l'approche camp, elle n'est pas favorisée, encouragée par le HR. C'est plutôt des choix des gouvernements pour des questions de sécurité. Ils préfèrent dans des zones turbulentes que les gens restent ensemble. Par exemple, au Kenya, les réfugiés sont obligés d'aller dans des camps. L'approche préconisée par le HR, c'est plutôt le vivre ensemble et que les uns et les autres puissent bénéficier, comme je l'ai dit, des infrastructures, de la protection, des centres de santé que nous apportons. Il y a des zones comme le Nord Ubangi, le Uele, où s'il n'y avait pas la présence des réfugiés, il n'y aurait pas de soins de santé pour les personnes congolaises. Il n'y aurait pas d'école pour les enfants congolais. Donc dans ce sens-là, il faut aussi parler de l'apport que les réfugiés peuvent amener plutôt que les problèmes qu'ils peuvent causer. Et encore, j'ai dit une dernière chose dans mon allocution tout à l'heure, qu'il ne faut pas confondre les réfugiés qui sont des civils et qui fuient la guerre et ceux qui parfois les poursuivent en République démocratique du Congo. Vous avez des infiltrations, par exemple, du SPLM, hein, c'est le mouvement armé du Soudan du Sud, vous avez la Séneca, etc. Alors là, vous avez le gouvernement qui doit faire un travail de trier les combattants et les civils. Nous savons que c'est un travail très difficile parce que la RDC c'est un pays très grand et les frontières sont souvent très poreuses, mais c'est un travail que nous faisons, que nous menons avec les autorités du pays, parce que si les autorités peuvent distinguer les combattants et les civils, ça va réduire les infiltrations. Ce ne sont pas les réfugiés qui sont un problème aux infiltrations, c'est plutôt les conflits dans les pays voisins et que des personnes armées n'entrent en République démocratique du Congo.
Nous nous rendons à Goma pour prendre une question.
Oui, moi c'est M. Papio Kito. Je suis du journal Écho d'Opinion. Je pose ma question au représentant de ACR. Monsieur, vous avez tout parlé des réfugiés et autres, mais vous n'avez pas parlé des moyens, de l'argent. Certainement, vous recevez de l'argent pour venir en aide à ces réfugiés. Mais au Nord Kivu, nous voyons que ces réfugiés, comme vous l'avez dit, vivent dans des familles, mais ils n'ont pas de moyens. Ils sont en train de s'endetter et d'avoir des problèmes avec les citoyens congolais. Est-ce qu'il y a des moyens, un peu d'argent pour leur venir en aide afin qu'ils soient en bonne santé ou avoir une vie noble? Merci.
Merci monsieur pour cette question qui est fondamentale. La journée mondiale du réfugié, c'est également, j'ai parlé de courage, solidarité, mais c'est également pour appeler aux bailleurs qu'il ne faut pas laisser tomber la République démocratique du Congo. Du point de vue du HCR, malheureusement, nous ne sommes financés qu'à 17% de ce que nous avons demandé aux bailleurs de fonds. Et donc, vous avez tout à fait raison monsieur, malheureusement, cela ne nous permet pas de faire face à tous les besoins de base des réfugiés. Lorsque vous traversez la frontière, vous avez tout perdu. Il faut vous réinsérer dans la société, il faut vous permettre de retrouver un emploi ou de recultiver, il faut vous permettre de pouvoir vous prendre en charge vous-même. Et pour cela, comme vous l'avez souligné, il faut des fonds que nous essayons de solliciter, ils ne sont pas suffisants et donc les personnes sont dans des situations très très difficiles au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de l'accès parfois à la justice dans certaines zones très très reculées où les cours et tribunaux sont très loin. Donc tous ces problèmes que vous avez soulevés, nous en sommes bien conscients et nous essayons de trouver des solutions, mais ce n'est pas facile. On n'a pas assez de moyens, comme vous l'avez souligné.
On prend une deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Jackson Mouchima, au compte de la RTNC Goma. Ma question s'adresse également au représentant régional du HCR. C'est par rapport au nombre ou au chiffre qu'il a donné. C'est vraiment, il y a un nombre élevé de réfugiés en RDC, mais aussi à côté de ce chiffre, il y a un nombre ou un afflux considérable de déplacés internes. Maintenant, j'aimerais savoir quelle approche adopte le HCR pour gérer les deux situations, des déplacés internes qui sont nombreux, mais également des réfugiés.
Bon, le HCR, je vous ai dit, hein, nous avons comme mandat de nous occuper des réfugiés, des personnes déplacées. Nous avons également le mandat de nous occuper des apatrides. Mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale du réfugié, alors je ne voudrais pas qu'elle soit diluée par les autres populations dont nous avons à nous occuper. Mais très vite, cher monsieur, pour vous dire que pour les réfugiés, nous avons un mandat direct où nous sommes tenus de leur apporter protection, assistance avec le gouvernement. Et c'est avec le gouvernement que ces personnes sont identifiées, enregistrées biométriquement et individuellement. Pour les personnes déplacées internes, nous agissons au sein de la coordination humanitaire avec les autres partenaires des Nations Unies. Donc tout le monde est impliqué dans la gestion des personnes déplacées, mais avant tout et surtout le gouvernement, puisqu'il s'agit de Congolais au Congo. Donc voilà notre approche avec les autres pour ce qui s'agit des personnes déplacées et peut-être plus directement lorsqu'il s'agit des réfugiés.
Retour ici à Kinshasa avec monsieur, par exemple.
Merci, monsieur Lambert Lamré du journal Émergence. Je voudrais juste poser la question en rapport avec le réfugié congolais du Kasaï qui se trouve en Angola. Est-ce que le HCR a un agenda pour le rapatriement de ce Congolais qui voudront volontairement regagner leur pays? Et quelle est aujourd'hui la situation dans l'ensemble de ce Congolais qui se trouve en Angola? Merci.
Alors, vous connaissez bien la protection parce que vous avez parlé de retour volontaire. Et donc, j'apprécie très fortement d'avoir rajouté ce mot-là. Parce qu'en effet, ce sont les réfugiés qui choisissent, selon la perception qu'ils ont de la situation de leur pays d'origine, s'ils veulent retourner ou pas. Pour le moment, nous n'avons pas encore de réfugiés qui sont venus massivement nous dire qu'ils veulent retourner dans les zones dont ils sont venus. Nous savons que d'autres sont revenus de manière spontanée, par leurs propres moyens, et malheureusement, une fois retournés en République démocratique du Congo, se retrouvent souvent encore une fois déplacés. Donc ils n'ont pas toujours la possibilité de retourner dans leur village d'origine en raison de problèmes entre communautés. Donc nous suivons de près la situation. Nous aurons par exemple très bientôt une réunion avec nos collègues d'Angola, ce qu'on appelle un cross-border meeting, où nous allons évaluer la situation parce qu'il faut nous préparer si un jour il y aurait retour.
Je prends une question sur Madame, sur la gauche, que je ne sois pas la seule voix féminine de cette conférence.
Merci beaucoup. C'est Judith Assina pour le compte du site matininfo.net. Je pose la question aux représentants résidents du HCR. Il y a des ONGDH qui dénoncent la détention d'une cinquantaine de réfugiés centrafricains à la prison militaire d'Indolo. Qu'en est-il exactement et que fait les HCR pour apporter la protection à ces réfugiés-là? Merci.
Merci pour la question. Chaque fois que nous sommes informés d'une situation de détention, nous nous rendons sur place avec notre partenaire gouvernemental, la Commission nationale pour les réfugiés, et nous essayons de voir s'il y a des charges qui sont contre ces personnes ou s'il n'y a pas de charges, quelle est la nature de la détention et si nous pouvons fournir une assistance juridique si ces personnes se retrouvent, par exemple, sans avocat. Alors, je pensais que vous alliez citer un autre cas qui a été porté à ma connaissance il n'y a pas longtemps de détention de réfugiés burundais pour lequel nous sommes déjà rendus sur place. Mais honnêtement, je n'ai pas connaissance d'une cinquantaine de réfugiés centrafricains arrêtés dans une prison à Ndolo. Donc, je vais me renseigner et peut-être je reviendrai vers vous lorsque j'aurai plus d'informations.
Nous allons à Goma, nous allons prendre une question.
C'est Saïd Yabassi pour le compte des Amina News. Pour les cas des réfugiés, toujours, vous avez donné un chiffre de 772 000 en Afrique. Est-ce que nous pouvons avoir quand même l'idée sur la situation des femmes réfugiées dans les camps et partout où vous les localisez? La situation des femmes spécifiquement parmi les 772 000.
Oui, bon, je vais me permettre de vous parler de la situation des femmes réfugiées en général, indépendamment de leur nationalité, qu'il s'agisse de femmes de la République démocratique du Congo, en Tanzanie, en Ouganda, ou de femmes du Soudan du Sud, ou de femmes centrafricaines, ici en République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a des situations de guerre, de déplacement, ce sont souvent les femmes et les enfants qui payent le prix cher. Elles sont violentées, parfois dans leur chair, elles doivent parfois s'adonner au sexe de survie pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Souvent, des jeunes filles qui étudiaient dans leur pays d'origine doivent arrêter les études lorsqu'elles sont dans le pays d'asile. Des enfants peuvent être, on en parlait tout au début, peuvent être sujets à des recrutements par des rebelles ou des groupes armés. Donc, les femmes sont, je dirais, violentées à plus d'un titre. Elles sont violentées parce qu'elles ont perdu leur structure familiale lorsqu'elles ont quitté le pays. Elles sont souvent victimes de violences lors du déplacement, c'est-à-dire du pays d'origine vers le site où elles vont trouver protection elles subissent des violences pendant tout ce temps-là. Elles sont violentées parce que souvent dans le milieu dans lequel elles sont, elles n'ont pas la possibilité de faire connaître leurs droits ou d'exprimer ce qu'elles ont subi. Par exemple, le viol, c'est un crime. Ben, si vous êtes violé vers Doruma, Bitima, dans le Ouélé, la cour d'assises, enfin la cour criminelle, elle est à Iziro. Comment est-ce que l'auteur de cela va être amené à Iziro alors que le gouvernement fait face à des problèmes difficiles pour la police, les OPJ, etc. dans ces zones-là. Donc voilà, la situation de la femme est très difficile. Il y a également les soins de santé, tout ce qui concerne la santé reproductive. Elles ont souvent des grossesses non désirées, les jeunes filles des grossesses précoces. Il y a la violence domestique, des fois un équilibre qu'il y avait dans le couple, dans le pays d'origine, est rompu à cause du déplacement. Et la femme subit des violences dans son couple au niveau domestique. La liste, malheureusement, elle est longue et leur situation n'est pas facile. Nous essayons, c'est une priorité pour nous, le HCR, de pouvoir leur faire connaître leurs droits, c'est très important, mais également de pouvoir amener des réponses, comme par exemple, si on amène des serviettes hygiéniques dans les sites aux jeunes filles, on sait que ça permet à certaines de retrouver les chemins de l'école. Quand on fait des sensibilisations, ça permet aussi à certaines de ne pas se retrouver dans les travaux, mais dans les écoles, en insistant sur la parité dans les classes, en primaire, en secondaire. Voilà, le sport également, c'est important, hein, on néglige souvent ces aspects-là, mais pouvoir permettre aux jeunes filles de faire des activités. Donc il y a tous ces aspects-là que nous prenons en compte dans notre réponse de protection.
Retour ici à Kinshasa.
Guy Oloum et RTNC 2 Développement, Florence et Joseph. Grippe aviaire à Ituri avait comme conséquence des pertes énormes de volailles. Reprise des choléras au Kassai avec des dizaines de personnes contaminées, sans compter Ebola à Bikoro. Question: pourquoi la persistance et la résurgence de toutes ces maladies considérées comme primitives frappe de plein fouet la RDC? Est-ce que le pays devient un ventre mou de l'Afrique sur le plan sanitaire?
Joseph.
Oh, merci beaucoup. Je pense que dans ce qu'on a présenté tout à l'heure sur l'appui de la FAO, on a expliqué pourquoi c'était important d'apporter cet appui au laboratoire vétérinaire. Je pense que c'est déjà beaucoup que on se réalise que ça valait la peine d'apporter cet appui au laboratoire pour que ça puisse permettre qu'à ce qu'on ne puisse pas continuer à ajouter des épidémies, des maladies d'origine animale sur la liste telle que Guy l'a présentée. Je pense que c'est déjà un grand pas vers la réponse à la question qui a été posée. C'est vrai aussi qu'il y a certains problèmes liés à l'environnement, il y a certains problèmes liés à certaines carences dans notre pays. Quand vous parlez du choléra dans les Kassai, vous voyez, c'est juste un problème d'accès à l'eau potable. Je pense que si on résout le problème d'accès à l'eau potable, on ne pourra pas continuer à parler des maladies telles que choléra. Il y a certaines maladies qui sont liées à l'environnement. Quand vous parlez d'Ebola, vous comprenez que c'est lié à un certain... Il y a certaines régions, certaines zones qui sont souvent concernées. Je pense que c'est lié à l'environnement et que petit à petit, avec des solutions telles que celles apportées par la FAO, j'espère qu'on ne pourra pas continuer à citer des maladies. On ne souhaite pas que le pays soit toujours exposé. Je pense que ça, c'est un pas vers l'amélioration de l'environnement et des conditions pour qu'on ne puisse pas trouver toujours des qualificatifs pour la RDC, comme tu venais d'en donner un tout à l'heure. Merci.
Nous restons ici à Kinshasa où nous prenons... Monsieur, vous avez déjà posé une question, donc je vais donner la parole à monsieur.
Professeur Germain Edengo, le comte de l'opinion. Ma question est adressée à M. Olivier. Un grand nombre de réfugiés vivent en dehors des sites d'hébergement. En d'autres termes, ils sont disséminés parmi les familles d'accueil congolaises. La question est de savoir s'il existe au sein du HCR une caisse d'indemnisation au bénéfice des familles qui ont accepté de cohabiter avec les réfugiés. Merci.
Merci, cher monsieur. Il n'y a pas une caisse d'indemnisation, mais comme j'ai dit au début. Lorsque nous réhabilitons des infrastructures, ces infrastructures profitent tant aux réfugiés qu'aux populations hôtes. Donc, par exemple, vous pouvez être dans un endroit où, avant l'arrivée des réfugiés, il y avait des problèmes en matière d'accès à la santé, en matière d'accès à l'éducation, etc. Ben, au lieu de n'apporter une aide que aux réfugiés, nous apportons l'aide à la communauté hôte et aux réfugiés. Parfois, nous pouvons également amener une aide ponctuelle aux deux communautés. Par exemple, lors de l'afflux des réfugiés centrafricains, ils étaient des fois dans certains villages même plus nombreux que les Congolais. Donc la population congolaise qui accueillait ces réfugiés centrafricains était vraiment en grande souffrance. Et nous avons plaidoyé auprès des bailleurs, c'était dur à leur expliquer, que nous voulions fournir une assistance en articles non alimentaires, des matériels de cuisine, des bâches, etc., pour les réfugiés, mais également pour les populations congolaises. On a eu beaucoup de mal à plaider cela, mais pour finir, on a réussi et on a fait une intervention avec le PAM pour fournir cette assistance ponctuelle en articles non alimentaires aux deux communautés. Notre plaidoyer également, c'est pour que les zones très reculées où sont les réfugiés puissent aussi attirer des acteurs de développement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Parce que des fois, c'est des questions de développement qui nous empêchent de venir renforcer notre protection. Si vous êtes au Bawele et qu'il n'y a pas de route, eh bien, vous n'avez pas accès aux réfugiés. Si je vous donnais par photo comment nous atteignons les réfugiés centrafricains vers Monga ou vers Ndou, vous n'en croiriez pas ses yeux. On met 2-3 jours pour atteindre les premiers réfugiés, une semaine pour atteindre ceux qui sont en Manga, en passant par des pirogues. On a réhabilité 17 ponts. Donc, vous voyez, quand on réhabilite 17 ponts pour atteindre le réfugié, ça profite aussi au commerce, ça profite à la population. Et là, je voudrais vraiment dire que lorsqu'on a parlé de problèmes sanitaires, de choléra, juste pour vous donner un exemple en quoi les deux sont liés, et l'équipe humanitaire pays, là, je prends un peu ma casquette de membre de l'équipe humanitaire pays, on doit parler des problèmes de protection, pas juste des problèmes de santé ou de sécurité alimentaire, parce que tout est lié. Nous, par exemple, on a à un moment dû arrêter le rapatriement des réfugiés rwandais vers le Rwanda à cause du choléra. Parce qu'évidemment, le pays hôte disait non, vous avez du choléra là-bas, on ne peut pas les recevoir. On a dû, nous aussi, renforcer la réponse en matière de choléra. Quand ça se passe au Kassai, ça peut empêcher le retour dont vous parliez des réfugiés angolais. Des fois, ce n'est pas toujours la peur de l'insécurité. S'ils sont dans un pays où ils ont soins de santé, ils ne sont pas malades, etc., et ils apprennent qu'il y a une épidémie de choléra chez eux, ils ne vont pas rentrer. Donc, vous voyez, tout est lié et la protection, c'est vraiment quelque chose de très important dans le pays. Et peut-être qu'on ne le souligne pas assez dans nos messages. Et là, je parle de nous autres Nations Unies.
Cher collègue de Goma, est-ce que vous avez une question pour nous? Oui, je vois une main levée.
Nous avons une question pour Joseph. Vous avez dit la bonne santé en RDC, vous avez parlé de l'éducation de qualité, vous avez parlé de l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, nous avons combien de femmes dans les instances de prise de décision? Vous avez parlé de l'éducation des qualités. Plus de 52% de la population congolaise sont des femmes. Et là où vous avez encore un jour dit que ce sont des femmes qui étaient analphabètes. La bonne qualité de santé. Nous savons que les femmes mères en cas d'accouchement, je ne sais pas sur base de quoi vous avez sélectionné les trois objectifs du millénaire comme c'était des bons par rapport à la République démocratique du Congo.
Donc je vous invite peut-être plutôt à lire les rapports publiés par le PNUD, ça pourra vous apporter les éléments utiles à votre question. Je pense que ces rapports doivent être plus détaillés avec tous les éléments et tous les aspects qui avaient été pris en compte. Malheureusement, on n'a pas un collègue du PNUD dans la salle pour qu'il puisse donner réponse à votre question. Mais d'autres aspects, il faudra aussi considérer la responsabilité du gouvernement dans l'amélioration de certains services dont vous avez parlé. Et je pense que de ce côté-là, les institutions gouvernementales sont mieux placées pour vous donner des réponses, car c'est un travail qui est fait conjointement avec le gouvernement et les agences des Nations Unies et d'autres partenaires.
C'est peut-être l'occasion de faire un plaidoyer en cette année électorale pour encourager les femmes à se présenter aux prochaines élections, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national. On l'a vu, les femmes ont répondu présentes lors des opérations d'enregistrement, mais il faut continuer et évidemment une représentation plus élevée des femmes dans les institutions, à la fois au niveau local, provincial et national, ne peut être qu'encouragée et c'est l'objet c'est l'objectif de toutes les Nations Unies ici présentes en République démocratique du Congo. On continue, on revient ici à Kinshasa avec monsieur qui va poser une question.
Merci, moi c'est Flavien Sens pour le compte de Planète Télévision. Monsieur le représentant régional des HR, il y a quelque temps, le membre de la société civile des Nord et Sud Kivu qui avait déploré qu'au moins par mois, il y a 500 réfugiés burundais qui entrent en République démocratique du Congo. Vu les chiffres que vous avez donnés, combien de réfugiés que vous avez déjà enregistrés, rien que dans le milieu urbain et dans les milieux ruraux? Merci.
Vous parlez des chiffres en général ou juste pour les Burundais? En général, d'accord. Donc, dans les milieux urbains, nous avons 3800 réfugiés urbains. Dans les sites, nous avons 132 700, et hors site, hein, mais toujours dans le rural, donc pas urbain, nous avons 398 000. J'arrondis parce que si je dois retenir 300, c'est compliqué quoi. Donc c'est arrondi.
On va prendre une monsieur sur la gauche, sans doute la dernière question.
Oui, merci. C'est Christophe Ngandou, de Digital Congo. Ma question s'adresse à Madame Florence Marchal. Vous venez d'évoquer les procès électoraux, mais nous avons vu au cours de cette semaine qu'il y a eu beaucoup de visites chez le président de la République. En principe, c'est pour envie de préparer la bonne tenue des élections. Et ma question, c'est de savoir où en êtes-vous avec la mission de vos offices de Mme Leïla, parce qu'on a comme impression qu'il y a des doutes sur la tenue des élections, parce qu'avec la libération de Jean-Pierre Bemba à la CPI, on parle aussi du dossier de Katumbi et consorts. On ne sait pas quelle est la position fixe du gouvernement et de ses partenaires pour la tenue de ces élections.
À ma connaissance, on continue à marcher vers les élections du 23 décembre. Il y a l'accord politique du 31 décembre 2016. Il y a le calendrier électoral qui a été présenté par la CENI en novembre l'année dernière. Il y a la constitution congolaise. Donc autant d'éléments qui font qui invitent toutes les parties prenantes congolaises à aller vers les élections prévues le 23 décembre. En ce qui concerne la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Zerougui, oui, elle continue ses bons offices, car comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, nous pensons qu'il est important et indispensable que ces élections aient lieu à la date voulue, afin de pouvoir parvenir à la première transition apaisée en République démocratique du Congo, afin de créer un espace de stabilisation au niveau de la région et afin de pouvoir aller vers le développement. Et Joseph en parlait tout à l'heure, il y a encore de nombreux progrès à faire pour la réalisation des objectifs de développement durable. Donc autant de conditions, des élections, la stabilisation et ensuite la réalisation des ODD. Donc pour nous, comme le dit souvent Madame Zerougui, nous ne posons pas de questions, nous ne spéculons pas sur ce qui peut ou ce qui ne peut pas se passer. Pour l'instant, nous avons un mandat qui nous a été donné par le Conseil de sécurité. Il y a aussi ce calendrier donné par les autorités congolaises. Donc nous continuons tous notre travail en vue de rapprocher les points de vue, enfin en vue d'établir la confiance afin que ces élections puissent se dérouler comme prévu. Des élections qui seraient apaisée et inclusive et par conséquent crédible. Voilà, c'est l'objectif de notre mandat. Il est 11h, il va être midi, donc l'heure de nous quitter. Je remercie vraiment Olivier Baird d'être venu aujourd'hui devant nous, le représentant régional du HCR. Beaucoup de questions pour lui, donc aussi peut-être un signe qu'on doit renouveler plus souvent ce genre d'invitation. Voilà, merci à tous. On se retrouve le mercredi 4 juillet à 11h15, heure de Kinshasa. Oh, capillé. Oh, oh, oh.